Nous sommes à la Maison Internationale Populaire, la MIP, au 178 rue Valvin. C'est un bâtiment donc, juste annexe des Beaumont, c'est occupé depuis le 18 avril. Bâtiment qui appartient à la SET, donc Société d'équipement de Touraine. Mais aujourd'hui, elle est surtout occupée donc, par des personnes sans solution d'hébergement. Et on a la chance de pouvoir donc, être avec Max. Tu es citoyen et tu es engagé sur ce lieu. Bonjour Max.
Bonjour à toutes et tous.
Et donc on imagine que ça a dû être une sacrée épreuve de trouver rapidement un nouveau lieu pour les 80 personnes sans abri. Comment est-ce qu'on a pris possession de ce bâtiment ?
Ben, rapidement, je ne sais pas, parce qu'en fait, ce problème de logement, il existe depuis toujours. Donc, je ne le tournerai pas en mode rapidement, mais plutôt en se disant que ça fait plutôt des années qu'on essaie, en tant que citoyen, citoyenne, de solliciter l'État en faisant des manifs, en essayant d'être présent autour de ces personnes. Et le souci, c'est qu'il y a un moment où on arrive un petit peu à bout de solution. Et quand on se retrouve avec encore une centaine de personnes, voire plus, qui ne sont pas logées malgré les solutions d'hébergement d'urgence, qui passe notamment par le 115, une des dernières solutions qui reste, c'est justement de trouver des endroits qui sont inoccupés depuis des années et des années, et de partir du constat que c'est quand même très frustrant de savoir qu'il y a des lieux qui n'abritent personne, alors qu'il y a des gens qui pourraient justement avoir ne serait-ce qu'un toit sur la tête et des conditions de vie un peu plus dignes.
Donc vous parliez de manifestation, il y en a eu une le jeudi 8 mai, en réponse à la fameuse mise en demeure. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors j'y étais pas personnellement, mais des retours que j'ai eus, ça s'est super bien passé. Ce qu'il y a de beau dans cet endroit, c'est qu'il y a vraiment un mélange de toutes les personnes qui sont présentes. Et on l'a retrouvé aussi à la manifestation. On a les personnes qui n'ont pas le choix que d'habiter ici parce qu'elles n'ont pas d'abri, mais il y a aussi les gens qui souhaitent vraiment s'y investir, qui restent ici. Il y en a qui dorment ici, il y en a qui passent dès qu'ils ont un temps. Et se retrouver toutes et tous ensemble dans la rue, apparemment ça a été une belle expérience. Enfin, des images qu'on voit, il y a justement les enfants qui avaient préparé les pancartes, avec leurs mots d'ailleurs, qui étaient là, qui les tenaient, qui chantaient. Il y a toutes les personnes autour aussi qui étaient présentes et ça s'est bien passé dans l'ensemble.
Et donc quelles ont été les revendications du coup de la MIP et ses volontés à long terme ?
La revendication principale, elle est simple, c'est d'avoir un toit sur la tête des gens pour qu'ils aient des conditions de vie dignes. Par conditions de vie dignes, je pense que on peut retenir quand même le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir accès à la santé, le fait d'avoir de quoi se nourrir et en fait, ces conditions-là, il faut savoir qu'elles sont hyper importantes parce qu'elles permettent aux gens d'être un peu plus tranquilles dans leur vie du quotidien et en fait de pouvoir mettre à jour tous leurs papiers, de pouvoir travailler, essayer de gagner un peu d'argent justement pour se débrouiller. Et ça d'ailleurs, c'est des témoignages qu'on a souvent autour de nous. Moi, j'avais eu un témoignage très touchant d'un habitant à une réunion collective avec toutes les personnes qui avaient sur le lieu et qui disait « Mais vous vous rendez compte, ne serait-ce que pour les enfants, ceux qui sont scolarisés, ils ont toute la journée où ils doivent ingurgiter des choses énormes parce que, enfin, on l'a... Je pense qu'on a eu la chance de le vivre. Les journées d'école, c'est hyper fatigant. Et en fait, il y a forcément un moment dans la journée où ils finissent par décrocher parce qu'en début d'après-midi, ils se demandent où est-ce qu'ils vont dormir le soir même, comment ils vont manger. Ils savent qu'ils vont voir leurs parents galérer pour essayer de leur trouver quelque chose. Et déjà, à ce moment-là, ils décrochent la moitié de la journée. Donc, quand ils quittent l'école, ils savent que ils n'ont pas d'endroit où aller. À ce moment-là, quand ils doivent faire des devoirs, C'est des choses qui sont hyper compliquées à mettre en place. Donc, il y a un décalage qui se crée aussi entre les écoliers, les écoliers, enfin, entre les enfants qui sont à l'école. Et tout devient plus compliqué. Tout. Et en fait, cette personne, elle nous disait, mais du coup, bah voilà, le fait d'être dans un lieu où on est plus tranquille, où on dort bien, où on sait qu'on peut manger, ben, ça crée des conditions qui sont hyper sécurisantes et qui vont faire en sorte que ces enfants, ils vont pouvoir étudier, ils vont pouvoir avoir plus de chances de construire un avenir et qui passe pas forcément par les études, parce qu'il y a plein de moyens de se débrouiller, mais c'est quand même une base qui est hyper importante. Et les enfants en témoignent eux-mêmes d'ailleurs aussi.
T'en parlais donc dans les revendications de la MIP. Quand on est hébergé donc à la MIP, ça permet quelles garanties ?
Aujourd'hui, avec les lois qu'il y a, aucune. Par contre, bah, ça permet d'avoir un espace collectif, un espace plus sécurisant. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, mais c'est beaucoup mieux que d'être tout simplement à la rue. En fait, il faut faire ce constat aussi, je pense qu'il est important, de se dire que on part de rien du tout. Donc, c'est forcément un peu mieux. C'est forcément un peu mieux. Après, c'est justement la vie du collectif aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait encore mieux et chaque jour mieux, mieux, mieux. Je pense que c'est ça vraiment l'objectif. De l'endroit.
Tu me tends une belle perche là pour que ce lieu, donc il s'organise et il fonctionne correctement, bah, il faut des personnes pour l'organiser. Qui sont les collectifs et les bénévoles mobilisés ?
Bah, en fait, avant tout, c'est les gens qui habitent ici. Il y a plus de 80 personnes qui sont logées ici, donc c'est des personnes qui s'organisent elles-mêmes. Rien que ça, c'est suffisant. Puis après, quand on a la chance d'être inséré dans le système français, on a un peu plus de billes, justement, pour pouvoir faire le lien avec les structures extérieures. Et je pense que le rôle des personnes qui viennent ici par choix, c'est justement ça, de faire ce lien.
Et donc, quels sont les profils des personnes qui sont hébergées, des bénévoles qui sont présents ?
Il n'y a pas vraiment de profil. Le profil des personnes hébergées, c'est des personnes qui n'ont pas d'autres solutions, qui n'ont pas de toit sur la tête. Il faut savoir que le système aujourd'hui, il fonctionne beaucoup par le 115. Donc le 115, c'est un numéro que les personnes doivent appeler ici à Tours tous les mardis et qui leur permet d'avoir éventuellement une solution d'hébergement pour au mieux une semaine. Donc en fait, toutes les semaines, cet éventuel logement est remis en question. Ça, c'est très, très violent comme situation, parce qu'il n'y a aucune situation pérenne, aucun moyen de savoir que ça va durer, vu que c'est tout le temps remis en question. Et après, chez les personnes qui viennent donner du temps, de l'énergie, de la vie, de la bonne humeur, plein de choses. Il n'y a pas de profil non plus. Vraiment, je pense que ça vient juste de la volonté personnelle de chacun et chacune. Et franchement, bah, quand on discute entre nous, et c'est ça qui est génial, il y a plein de raisons et de points de vue différentes qui fait qu'on est ici, quoi.
Quels sont les équipements qu'on a besoin et qu'on a déjà au sein de la MIP ?
Waouh ! Alors déjà, ce qui me paraît hyper important, c'est qu'il y a des lits et des serrures aux portes pour de chaque chambre, pour chaque personne qui habite là. Ça, c'est le strict minimum. Après, ben, c'est un lieu qui n'a pas d'eau, pas d'électricité. Donc, ça, on se débrouille comme on peut, justement, avec des jerrycans d'eau qu'on essaie d'aller chercher, remplir, quasiment tous les jours, en fait, ce qui prend pas mal de temps. Puis après, ben, on a, une fois qu'on a passé ce stade nécessaire, là, on est en train de mettre aux normes vraiment tout le bâtiment sur les, sur la réglementation incendie. Ça, c'est un truc qui est vraiment important pour nous. Et sinon, au niveau de ce qu'il y a, bah, en fait, ça dépend de chaque moment. Si on se dit, bah, tiens, là, on a besoin de ça, c'est un besoin direct, bah, on va essayer de faire en sorte de régler ça. On va par justement des appels à dons et autres. Donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a sur le forum de la MIP, donc un groupe qu'on peut trouver sur Signal, qui est ouvert à tous, les besoins qui sont mis régulièrement à jour pour les dons actuels.
Tu pourras me dire si tu es d'accord ou pas avec, avec ça. Moi, ce que j'ai vu passer dans les différents articles de presse qui traitaient de la MIP, c'est qu'il y a parmi les risques identifiés, c'est qu'avec cette solution d'urgence, vous remplaciez un petit peu les services publics en les déléguant de cette responsabilité d'émergement. Et donc qu'ensuite, ils se saisissent un peu moins de cette question. Est-ce que là, en quelques semaines d'occupation, c'est quelque chose que vous avez déjà observé ?
Non, moi j'y crois pas du tout. Pour la simple et bonne raison que le 115 notamment est tout le temps plein. Mmh. En fait, que la MIP soit occupée ou pas, le 115 est tout le temps plein.
Non, bien sûr, ce que je veux dire, la raison d'être de ce lieu, elle est vitale. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens, le 115 fait ce qu'il peut. En revanche, les autorités compétentes qui pourraient ouvrir plus de places au 115 auraient tendance à se désintéresser en fait, de ce problème-là.
Sincèrement, je ne sais pas, parce que je pense que je ne réfléchis pas de la même manière que ces personnes-là. Mon avis personnel, c'est de me dire que, comme tu disais, il y a ces besoins qui sont là, donc de toute manière, il faut, je pense, les prendre en considération et agir. Je pense qu'il y a un moment où c'est important d'agir. Après, j'ai un côté d'espoir, je pense, de dire aussi que cette maison, elle fait parler. Elle fait parler un peu à tous les niveaux. Je pense qu'elle fait parler dans la rue, dans les bars, dans nos foyers, si on a la chance d'en avoir. Et elle fait parler aussi au niveau politique. Donc, en fait, il y a quand même, je suis sûr, des personnes sur le plan administratif, politique, qui ont ce sujet sur la table. Donc je pense que c'est un moyen aussi de réfléchir à comment faire autrement de leur côté. J'imagine qu'il y a des gens aussi dans les instances administratives qui veulent bien faire les choses et qui sont en train de se dire, ben, en effet, là, il y a ça qui remonte sur la table et il faut qu'on s'en saisisse. Et si il y a des maisons qui souffrent comme ça, c'est que le travail n'est pas fait jusqu'au bout. Donc j'ai aussi cet espoir-là. Je pense qu'il y a des gens qui pensent comme ça.
On l'a dit, la SET, Société d'équipement de Touraine, elle est propriétaire des lieux et elle est détenue à 73% donc par les collectivités territoriales, à savoir le département, la ville de Tours et la métropole. Donc elle a adressé une lettre de mise en demeure qui, tu le disais, c'est donc un avertissement, quelque chose qui indique que vous êtes sur sa propriété. Pour autant, ce n'est pas forcément un avis d'expulsion. Mais qu'est-ce que ça signifie donc tout à fait cette lettre ?
Cette lettre, pour moi, c'est assez flou. Je ne pourrais pas donner des détails particuliers là-dessus. Par contre, toutes les personnes présentes ici savent très bien qu'on est dans une situation qui, aujourd'hui, est encore irrégulière. C'est un mot qui peut faire peur, mais c'est ce qu'on appelle un squat. Donc, c'est quelque chose qui, par essence, nous met dans une situation où on peut être expulsé à n'importe quel moment. Bon. Une fois que ce constat est posé, l'idée, c'est justement d'arriver à en faire quelque chose de plus constructif. Moi, des connaissances que j'ai, y a possibilité de demander des conventions d'occupation. Y a des moyens éventuellement de déléguer la responsabilité des personnes qui détiennent ce lieu, parce qu'il y a ce point à prendre en considération. Je pense qu'aujourd'hui, une des inquiétudes majeures de la SET, ce serait qu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'accident sur les lieux. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il y a, sur la réglementation, les personnes qui détiennent le bâtiment sont responsables s'il se passe quelque chose. Donc l'idée, c'est aussi de trouver des solutions juridiques pour faire en sorte que ces personnes ne craignent rien s'il arrivait quoi que ce soit. Et évidemment, avant tout, de faire en sorte qu'il n'arrive rien sur ce lieu.
Est-ce que tu as eu vent des discussions qui ont pu avoir lieu, que ce soit avec la ville de Tours, avec la SET, si vous avez réussi à les contacter autour de l'occupation de ce bâtiment ?
Personnellement, non, pas trop. Après, on est en lien avec la mairie, avec des personnes représentantes en tout cas. On a déjà discuté avec, avec le maire lui-même. On a eu des discussions aussi avec des personnes qui travaillent à la SET. Pour l'instant, bon, ça se passe toujours bien. On peut discuter avec les gens. Je pense que tant qu'on peut discuter, il y a ça qui est vraiment important. Tant qu'on peut discuter, on peut trouver des compromis. Par exemple, au début, quand on est arrivé ici, il y avait vraiment tout l'espace extérieur qui était libre. Et une des premières discussions qu'on a eues avec le maire, c'était de nous informer qu'il y avait des travaux qui devaient être faits sur une partie du terrain. Et c'était une très grosse préoccupation pour elle et eux, parce que qui dit travaux dit besoin justement de sécuriser ces travaux, de pouvoir les faire aussi. Et le but, ça a été voilà, de trouver un terrain d'entente en disant ben, on ne passera plus par l'entrée qu'il y avait au niveau des Beaumont. D'ailleurs, la SET nous a fourni la clé de la porte par laquelle vous êtes entré pour qu'ils puissent sécuriser les lieux des travaux et pour que nous, on puisse pour l'instant rester ici. Donc, tant qu'il y a dialogue, il y a des terrains d'entente qui peuvent être trouvés, quoi.
Ouais, bah, ce que tu dis, c'est que voilà, l'idée, c'est quand même que de toute façon, il y a des gens qui vivent ici, donc c'est de leur rendre la vie peut-être un peu plus simple dans le temps qu'on trouve des solutions à l'amiable pour tout le monde.
Ouais, bien sûr, je pense que on a tous et toutes besoin de simplicité. Je pense que c'est le premier truc qui nous permet d'avoir l'esprit libre, de s'évader.
Mais ce que tu dis, ce qui est plutôt optimiste, c'est qu'il y a un dialogue qui est possible déjà, avec la mairie, avec la SET qui a quand même fourni la clé, ce qui n'est pas rien. Et donc, monsieur le maire Emmanuel Denis, est-ce qu'il se montre réceptif à ce qui se passe ici à la MIP ?
Moi, du peu d'échanges auxquels j'ai assisté, oui. Je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est une personne qui représente un parti de gauche aujourd'hui et qui du coup défend des valeurs sociales. Et oui, moi, je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui est au sujet déjà de ces problématiques, au courant de ces problématiques, et avec qui on arrive à avoir un dialogue, oui.
Donc il y a, on va repartir sur quelque chose d'un peu plus léger. Il y a cette menace d'être délogé, mais en attendant, donc ça permet quand même voilà une petite centaine de personnes d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir appréhender les nuits un peu plus sereinement. Une fois que la tempête est passée là et qu'on peut souffler un petit peu, bah ça doit donner aussi lieu à des beaux moments, parce que c'est quand même une vie en collectivité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis l'ouverture de la MIP le 18 avril ?
Waouh ! Chaque moment que je passe ici me marque. Enfin, en fait, on souffle rarement. Alors je le dis dans un sens assez positif, mais parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui nous animent, que du coup, on est tout le temps un peu à droite, à gauche. Après, moi, il y a des moments qui m'ont marqué sur des rencontres un peu plus festives. Peut-être le premier anniversaire d'un enfant qui était pas son premier anniversaire à lui, mais je dis ça parce qu'il y a eu plusieurs anniversaires d'enfants. Donc le premier auquel j'ai assisté, où il y avait ce côté vraiment où on avait des gens autour, un gâteau, une bougie. C'est des choses qui peuvent nous paraître si banales à nous, qui avons eu la chance de grandir avec ça, mais qu'il ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Je pense que ça aussi, c'est important de se le rappeler. Après, je ne connais pas sa vie d'avant. Peut-être qu'il a eu la chance d'avoir des bougies à chaque anniversaire. J'en sais rien du tout. Mais le fait est que là, il y avait cette cohésion, les gens qui étaient heureux, qui chantaient ensemble, qui dansaient ensemble. Ce moment où il y avait cet enfant qui paraissait ému, quoi, qui nous a tous et toutes remerciés. Enfin, mais juste remercier d'être là, quoi, pour passer ce bon moment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Ça c'est génial. Puis après, ben, à chaque petite chose, quand le barnum est monté, qu'on a un endroit où on peut se mettre dehors, tout le monde est content. Quand on a commencé, il y a un petit poil dehors, enfin un petit brasero, juste se retrouver autour du feu, discuter. Il y a des gens qui chantent, des gens qui parlent. Il y a plein de moments conviviaux, quoi.
Et comment t'en es venu à t'engager auprès de donc, la Maison Internationale Populaire? Ça fait longtemps que t'étais militant avant?
Je suis peut-être un peu militant dans l'âme depuis tout petit, mais parce qu'en fait, je sais pas, moi je suis très frustré par le sentiment d'injustice que je peux ressentir, et je pense que c'est un truc qui m'est venu il y a plusieurs années. En me rendant compte des inégalités dans lesquelles on vivait, qu'on pouvait éventuellement entretenir, et des situations qui me paraissent juste trop difficiles. En fait, c'est juste ce côté de me dire, mais si j'étais à la place de telle ou telle personne, je trouverais vraiment ça injuste. J'aurais envie de trouver des solutions, et je sais que ça peut être très compliqué, mais je pense qu'aussi qu'à l'inverse, on peut se dire, je n'ai pas personnellement ce besoin-là, mais par contre, si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Et moi, je pense que je suis là parce que je suis en colère contre, je suis pas en accord, surtout avec la manière dont les choses sont gérées au niveau de l'État. En France, je ne suis pas en accord avec la gestion globale de la France sur ces sujets-là. Je sais que c'est des sujets qui sont très compliqués, mais je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être prises activement à la base. Et c'est tout l'enjeu de la MIP, de se dire, il y a des gens qui n'ont pas de toit sur la tête. On commence d'abord par leur donner un toit. Et une fois qu'ils ont un toit, là, on a le temps de réfléchir et de trouver des solutions plus pérennes, de trouver des solutions concrètes. Ça demande de l'aide collective, ça demande plein de choses. Mais je veux dire, aujourd'hui, on reste un pays qui est riche. On reste un pays qui s'est développé sur le dos d'autres pays. Je pense que c'est des choses qu'il faut pouvoir dire aussi. En commençant par faire ce constat, là, on peut commencer à avancer et dire, on a des responsabilités et il faut s'en saisir. Donc, moi, je suis venu ici pour ça. Pour me dire, on a besoin de faire les choses ensemble, quoi. Et quand on vit avec les gens proches, on se rend compte vraiment de tout ça, on se rend compte des difficultés, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment pas normal aujourd'hui, et du coup ça donne encore plus envie d'agir, parce qu'on l'a là entre les mains, puis on discute avec des gens qui sont en face de nous. C'est pas des choses qu'on entend de loin ou quoi que ce soit. C'est toujours facile quand on est dans son canapé de dire, ah mais oui, on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais en fait, quand on a la personne qui est en face de nous, je suis sûr que l'énorme majorité des personnes qui tiennent ce discours dans leur canapé ne seraient pas capables de le tenir en face d'une personne avec qui ils ont discuté, avec qui ils ont échangé, avec qui ils ont rigolé, parce qu'il y a de ça aussi. C'est ça toute la force d'une vie ensemble dont on a besoin. Et on apprend tellement, tellement de nos différences.
Est-ce que tu as des inquiétudes face à cette situation?
Ouais, je suis vachement inquiet parce que je trouve, encore une fois, qu'on va pas forcément vers le bon chemin. Moi, je ressens beaucoup aujourd'hui la montée des extrêmes droites, et qui n'est pas du tout un cadre sécurisant pour, sur le plan social, vraiment tout confondu. Donc j'ai des inquiétudes par rapport à ça. J'ai des inquiétudes un peu plus directes par rapport à ce lieu, parce qu'en fait, ce qu'on vit là, c'est beau, c'est vraiment beau. Et j'ai pas du tout envie qu'on nous l'arrache. Je vois tout ce qui est créé ici, tout ce qui est construit, c'est vraiment du positif quotidien, quoi. Donc oui, l'inquiétude qu'on nous arrache ça. Mais après, ces inquiétudes, c'est les premiers sentiments qu'on a. Et puis vient le second où on se rend compte que tout ce qui se passe, on nous l'arrachera jamais, quoi qu'il en soit. Tout ce qu'on vit ici, ben, on l'a acquis dans notre mémoire, on l'a acquis dans notre chair, et en fait, on l'emportera avec nous où qu'on aille. Et en fait, ces inquiétudes, elles partent petit à petit, et ça devient beaucoup plus léger.
Parmi les points que tu abordais tout à l'heure et que je trouve importants, tu disais que c'est assez crucial de garder un lien avec l'extérieur. Et par exemple, il y a l'association Utopia 56 là, qui accompagne certains mineurs, ou, par exemple pour l'apprentissage du français ou quoi que ce soit, même dans les démarches administratives. Quels sont les enjeux pour rester connecté à l'extérieur, et qu'est-ce qui est fait pour créer du lien?
Alors, Utopia, personnellement, j'ai pas trop été en lien avec LE, donc je peux pas te répondre sur ce point-là précisément. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a un écueil dans lequel il faut vraiment surtout pas tomber, c'est d'arriver ici en sauveur blanc, qui voulons tout faire sur le moment, sauver ces gens. Ça, pour moi, c'est pas du tout ok de fonctionner comme ça, et c'est tout l'enjeu justement de construire ensemble. Après, je pense que on a, comme je disais tout à l'heure, on a plus de billes quand on est inséré depuis longtemps ou depuis la naissance dans le système français, et là par contre on peut apporter, on peut créer du lien. Encore une fois, je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important, de créer du lien. Et ne pas vivre ici en autarcie, ça relève des points cruciaux. Et arriver à créer du lien avec l'extérieur, ça peut passer justement par dialoguer avec les structures qui existent déjà. Donc ça peut être les associations, les collectifs, mais aussi... ça peut être par exemple avec les structures de soins, essayer de proposer aux gens de venir un peu sur place, discuter avec nous, discuter avec les gens qui habitent ici, permettre aux gens d'avoir une insertion dans le système social. Et ça aussi, en fait, c'est tout un enjeu qu'on retrouve là, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas de toit sur la tête, qu'on peut dormir à droite, à gauche, c'est hyper dur de garder du lien avec une structure. Y a des gens qui ne parlent pas encore français ou qui ont des difficultés avec la langue. Savoir où est-ce qu'ils doivent se rendre, quand, ça peut être compliqué. Quand on a du mal à comprendre aussi... On n'est pas sûr et certain de devoir aller au bon endroit au bon moment. Il y a un côté aussi où, je pense que humainement parlant, c'est décourageant. Donc, du coup, recréer du lien avec l'extérieur. Proposer aux gens soit de venir ici, soit leur dire, la MIP existe, on est là. Est-ce qu'on peut vous joindre si on a telle ou telle problématique? Pour l'instant, on a eu plein de réponses positives. Et ça m'est même arrivé plusieurs fois de dire « Ah, cette personne est là, ça fait des semaines qu'on essaie de la contacter, et là, on a un lien qui revient vers nous, mais c'est génial, on va pouvoir remettre ça en place. » Ça, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes. Et à l'inverse, sachant qu'on est dans un lieu qui aujourd'hui reste menacé, on peut pas se permettre de tout focaliser ici et te dire que si ça éclate un jour, les personnes n'aient plus de points d'accroche. Il faut que les points d'accroche soient à l'extérieur. Et puis, il faut aussi rappeler qu'il y a des personnes qui sont compétentes dans chaque domaine. Et nous, on n'est pas là pour jouer les apprentis sorcières et sorciers. On est là justement pour essayer d'aiguiller et pas... Et de faire confiance à ces gens compétents et compétentes.
Du coup, tu le disais, est-ce que c'est donc pas un lieu que vous souhaitez acquérir et pérenniser ?
Ah si, 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 on est bien ici. On est vraiment bien. Enfin,
c'est vrai que le lieu,
je pense que,
est...
je ne sais pas si vous l'avez ressenti en étant ici, ouais. Mais il est incroyable ce lieu. Il est magnifique. On a un lieu d'habitation qui est vraiment tranquille. Moi, ça m'arrive de dormir là, il n'y a pas un bruit. C'est calme comme pas possible. On se repose vraiment. Et je dis ça pour moi, mais en fait... C'est aussi ce que les gens qui habitent ici au quotidien nous rapportent. On est dans un endroit où on est tranquille. Et on veut garder ce lieu parce qu'il y a ce bâtiment d'habitation où il y a le repos. Il y a le bâtiment dans lequel on se trouve où on va pouvoir faire à manger. Il y a une cuisine qui est immense. On peut faire à manger pour 100 personnes sans aucun problème. Il y a ces bureaux un peu dans lesquels on se trouve, qui servent aussi à faire du lien avec l'extérieur. Alors là, plus sur le côté collectif, militant, des gens qui ont besoin de se réunir, on est... Un des soucis, c'est qu'on peut se retrouver un peu éparpillé. Il y a tellement de causes à défendre ou dans lesquelles s'investir qu'avoir un lieu dans lequel on peut regrouper toutes ces luttes qui convergent, en fait, hein, c'est hyper important. Donc ce bâtiment, il va être dédié à ça. On ne gêne personne en étant ici. Et puis, on a cet autre bâtiment qui est à l'opposé des bâtiments d'habitation où on peut avoir des moments festifs, mettre un petit peu de musique, dans le respect du voisinage aussi. Hein, ça, c'est tout l'intérêt. Je pense que le respect, de toute manière, c'est une base essentielle dans toutes les interactions qu'on a, mais et ce grand jardin dans lequel justement ben on va pouvoir cultiver, on peut se rencontrer, on peut manger ensemble. Non, cet endroit il est génial et ça fait 15 ans qu'il est à l'abandon. Moi je pense que on est au bon endroit.
Mais justement, c'est plutôt beau à entendre et c'est presque, on se rapproche presque de l'idéal utopique. Est-ce que c'est pas trop difficile à concilier avec toutes les difficultés qu'on a évoquées juste avant, se dire bah mince, on est quand même un petit peu soumis à un cadre légal, au fait que le bâtiment nous appartienne pas, et pourtant c'est un peu un terrain propice pour faire plein de bonnes choses et pour mener à bien ce qu'on aurait envie de mener auprès de ces personnes qui ont besoin d'une solution d'hébergement d'urgence.
On a besoin d'utopie. On a besoin parce que si on reste sur le plan purement théorique des problématiques qu'on a au niveau de nos sociétés, et j'ai même envie de l'élargir au niveau mondial, on a d'énormes soucis d'inégalité sur la planète entière. On a des soucis climatiques qui sont à recouper aussi avec ça. En fait, si on reste sur le côté purement théorique, on a tellement tendance à se sentir abattu devant le poids de toutes ces choses qui sont très problématiques aujourd'hui et qui ne peuvent pas durer dans le temps. Enfin, je veux dire, la vie qu'on mène aujourd'hui, je pense qu'il faut être conscient qu'on ne pourra pas la mener pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. C'est juste pas possible. Ou alors il va falloir créer encore plus d'inégalités pour qu'une petite partie de la population garde ces privilèges-là. Mais je veux dire, sur le long terme, ça ne peut pas tenir. Moi, c'est surtout ça. En partant de ce constat-là, je me dis, bon ben, on a ce problème. Ok, il n'est pas cool, hein, ce serait bien qu'on ait des quantités infinies de choses, qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, quand on veut, sans qu'il y ait aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. Là, factuellement, ce n'est pas le cas. Donc... bon, bah, ce problème, il fait chier, mais il existe. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là que l'utopie, elle rentre en jeu, où on se dit, bon, bah, en fait, on peut rêver d'autre chose plutôt que de crouler sous ce poids-là. On peut rêver d'autre chose, et ça commence par ça, d'ailleurs. Je pense qu'on le rêve un peu tous et toutes de notre côté. Et dans un lieu comme ça, ben, on le touche du doigt. Ça devient réel, c'est plus une utopie en fait, c'est quelque chose de réel. Et là, on n'est plus isolé avec ces énormes problématiques, mais on les prend à bras le corps ensemble.
Ouais, elle allait un peu dans ce sens-là, la question, quand je te demandais, bon, bah, y a cette cette menace qui plane un petit peu de mince, on n'est pas dans un lieu qui nous appartient, donc il y a cette possibilité d'être expulsé. Pour autant, on est dans un lieu communautaire où qui crée de bons moments et qui permet un petit peu de souffler avec cette idée d'utopie, de ok, c'est bon, là on a une solution qui est peut-être pas pérenne pour l'instant, mais qui est là. Et il y a des gens qui œuvrent pour créer un. Le mot qui me vient, c'est un petit havre de paix. Tu parlais de calme et de fait que c'est un super lieu qui est déjà. Il y a beaucoup d'espace et qui permet d'avoir ce calme pour se reposer et pour être un peu plus serein.
Mais en fait, j'ai envie de te dire, mais si, elle est pérenne cette solution en fait. Elle est pérenne de ouf parce que. C'est pas le lieu qui compte, c'est alors le lieu compte beaucoup parce qu'on l'aime, mais je veux dire
c'est
en fait
la volonté qu'il y a derrière.
Ouais, on va partir, enfin si on doit partir, on partira avec ça quoi. Et ça c'est pérenne. Ça nous restera et je pense que ça il faut le garder en tête. Ce qu'on crée là, on l'oubliera pas. On va pas juste se dire un jour oh mince, on ne peut plus rester ici. Bon bah c'est fini et chacun reprend sa vie. Non, c'est plus possible. Justement, une fois qu'on a goûté à cette utopie-là, bah, on la lâchera pas. On la lâchera jamais.
Ben, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Max.
Merci à vous, c'est cool d'être passé.
Mais du coup, salut Chi, merci d'être avec nous et merci d'accepter de répondre à quelques questions.
Salut.
Donc toi, ça fait combien de temps que tu es ici ?
Depuis le premier jour, le 18 avril.
Ok. En termes d'organisation, comment elle s'organise la vie ici et comment tu t'y sens aussi ?
Je m'y sens bien, ça s'organise tous les jours. Il y a des longues réflexions qui sont faites et c'est la transition entre ces réflexions, enfin le passage à l'action dans l'organisation qui se voit au quotidien, qui ne peut pas se décréter directement et donc qui sur un suivi à long terme permet de voir les évolutions et les avancées qui sont faites.
Toi, t'es dans quelle situation actuellement ?
J'habite ici, c'est-à-dire que je viens de faire ma déclaration de déménagement à la CAF. Parce que moi, j'étais SDF depuis 5 ans, je suis toujours. Mais là, j'aimerais revenir sur Tours et pouvoir continuer mes démarches.
Ok, donc ça serait la MIP qui t'a fait revenir sur Tours ?
Oui, complètement.
Ok, t'étais où avant ?
À Notre-Dame-des-Landes.
Comment t'as entendu parler de cet endroit ?
Parce que je suis avec l'équipe de création aussi et de tout ça, donc c'est comment dire, une stratégie à long terme sur ses besoins collectifs, sur les manquements sociaux et les façons justement de s'organiser pour en arriver à là.
Toi, donc, tu as une expérience dans la rue. Est-ce que tu as pu bénéficier des services du 115, par exemple ?
Non, j'ai jamais été trop suivi par les services de l'État. J'ai la chance personnellement d'avoir vécu ça jeune et d'être assez autonome en ce qui concerne la vie dehors. Donc, j'ai pu. Vraiment, j'ai évité de stagner dans ma vie et donc j'ai toujours. Beaucoup plus c'était sur la route, à différents endroits.
Tu as toujours réussi à trouver des petites solutions à droite à gauche pour te débrouiller
Oui, bien sûr. Je pense que l'être humain survit très bien sur Terre quand il peut penser et réfléchir à ce qu'il doit faire.
C'est beau ce que tu dis. T'as quel âge maintenant Si on peut te le demander.
Je vais avoir 32 ans le mois prochain.
Ah, ok.
Tu travailles en ce moment
En ce moment non, puisque c'est compliqué. Moi, je travaille en intérim, je fais des missions journalières en déménagement. Le souci, c'est que si je commence à travailler avant la demande de RSA, je vais me retrouver avec un salaire très très bas, peut-être de 2, maximum 300 euros par mois, selon les missions. Et là, auquel il y aurait très peu de compléments, à part peut-être la prime d'activité qui me mènerait à 400 ou 500 euros, ce qui reste inférieur au RSA. Donc c'est pour ça les démarches, je dois faire les démarches en amont du RSA pour stabiliser et pouvoir reprendre une activité.
Donc tu es dans un lieu qui a été mobilisé, réquisitionné par des militants, et tu nous dis que tu es un peu toi-même militant. Tes actions, elles passent par quelles ça passe plutôt par quelle action ? Et est-ce que tu es actif auprès de certains dispositifs et certaines organisations ?
Alors, à l'origine, par des formations que j'ai faites plus jeune, je suis street medic, donc équipier secouriste, premier secours en équipe de niveau 2. Et j'ai été dans beaucoup d'organisations, beaucoup de collectifs différents, justement, pour venir en aide sur cette question-là, en particulier sur les actions et sur les manifestations. Et c'est vrai que c'est un rôle qui s'est énormément complexifié depuis les Gilets jaunes et depuis les soulèvements de la terre et le cas de Sainte-Soline, à la fois de la première et de la seconde manifestation, où on voit que la répression est immense et que faire face en tant que street medic ou en tant que secouriste à ça devient très compliqué parce qu'il y a un niveau de matériel et de formation énorme à avoir. Donc maintenant, je suis plus orienté sur l'évacuation des personnes.
Et comment tu le vois, le développement et le futur ici de la MIP ?
Très bien, je pense qu'on a un très bel avenir et dans ce lieu et partout. C'est aussi pour ça qu'on se base dans tous nos principes sur des éléments simples qui parlent vraiment à chaque être humain, qui sont pour la...
Ouais, t'arrives à te projeter ici ?
Oui, bien sûr.
Ça serait quoi, alors je pousse un peu mes questions, mais ça serait quoi pour toi la force de cet endroit ?
À la fois une centralité géographique à Tours, un réseau international qui s'est vraiment mis en place comme j'en ai rarement vu, c'est-à-dire que c'est pas des communautés divisées dans son coin, c'est tout le monde travaille ensemble. Donc effectivement, la force, c'est cette culture commune, cet engagement et cette énergie qui est mise au quotidien. Et d'énormes moyens aussi qui sont déployés autour, qui sont invisibles, autant dans les soutiens et différents collectifs que dans les individus qui apportent leur aide, qui font les dons, qui viennent déposer du matériel de première nécessité. Ce qu'on voit tous les jours, mais ce n'est pas des personnes qui vont avoir un nom, être reconnues. C'est vraiment des démarches individuelles très très importantes.
Si tu devais peut-être faire un petit bilan depuis ton installation ici, ça serait lequel ?
Personnellement, ce serait un bilan un peu négatif parce que j'ai très peu de temps pour ranger ma chambre grâce à toutes les activités qui sont autour. Mais le fait de se sentir quand même chez soi, malgré les menaces d'expulsion et l'illégalité, c'est un point de repère très important pour se reposer et qui est sécurisant aussi de par les efforts déployés par tout le monde autour, de jour comme de nuit, pour que tout le monde se sente à l'aise.
Ouais, il y a Max qui nous parlait juste avant du fait que c'est ce qui revient beaucoup dans les avis sur cet endroit, c'est que c'est calme et que ça permet quand même d'avoir une certaine sérénité. T'es d'accord avec ça ?
Oui, complètement.
Je connais pas exactement ton parcours, mais est-ce que quand on a connu des périodes un peu instables, etc., ça fait aussi du bien d'arriver dans un contexte un peu plus posé comme celui-là ?
Ouais, exactement, c'est vraiment un environnement très calme qu'on a réussi à créer. Ce qui est vraiment pas évident quand on connaît effectivement les difficultés dans la rue. Il y a plein d'erreurs, plein d'expériences un peu naïves qu'on arrive maintenant à éviter avec des réflexions profondes sur tous les sujets de violence, d'addiction, de soins. Donc on a vraiment été prêts à répondre à tout ça de manière intelligente pour préserver le lieu et les habitants. C'est une grande réussite.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les... Enfin, j'ai pas envie de poser la question maladroitement, mais c'est quoi les principaux dangers quand t'es à la rue ?
Ça peut être même... soi-même de déprimer, de ne plus avoir envie d'avancer. D'avoir une facilité à trouver des palliatifs à ça, afin de ne pas penser, en fait, de ne pas être dans la démarche de voir autre chose, de voir un avenir différent. Ça, c'est vraiment le plus grand danger, en tout cas en ce qui me concerne. Et ensuite, c'est bien évidemment les violences quotidiennes. Violences qui ne sont pas spécifiquement directes, mais... pouvoir se procurer le nécessaire, enfin, en petit groupe, on sait qu'il y en a rarement pour tout le monde. Donc,
ça crée de la compétition ?
Exactement.
Okay.
Exactement, en termes même peut-être d'ingénierie sociale dans un groupe où il faut soit être plus malin ou plus fort pour obtenir quelque chose. C'est aussi toute cette culture là un peu dark de squat et d'environnement alternatif qu'on essaye pas d'effacer mais de transformer en tout cas et de dire qu'on en est conscient, on peut faire mieux et on y travaille.
Ben merci beaucoup.
Merci.